Paris, 25 octobre, AFP, justice-viol. Trois hommes accusés d'avoir violé une mineure de 17 ans ont été condamnés aujourd'hui par les assises de Paris aux peines requises les plus légères. Au terme d'un délibéré d'1h45, les jurés ont estimé les trois hommes coupables, mais leur ont accordé des circonstances atténuantes. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense avait affirmé que c'est la sex-société qui est la cause des viols. Nos clients n'en sont que les effets. C'était en 1985. Bonsoir et bienvenue en 2020.
France Inter. Julia Foyce. Passons genre.
Et pardon, si dès la première de l'année on vous rentre un petit peu dans l'art, c'est vrai, cette émission risque de vous sonner un chouï, mais promis à l'arrivée, elle va vous faire aussi du bien, parce que j'ai là, à ma droite, un torrent d'énergie, une lumineuse colère, une vie furieuse, farouche, bouillonnante, un sens du combat qui vous tient tout droit. Claudine Cordani, bonsoir.
Bonsoir Julia.
Vous étiez au cœur de ce procès d'assises en octobre 85, puisque la victime de ce viol en réunion, c'était vous. 35 ans après, vous publiez ce livre, La justice dans la peau, livre où vous racontez à la fois ce si mauvais tour que vous a joué la vie, que vos engagements d'aujourd'hui, féministe, écologiste, humaniste, vous y allez comme femme et comme journaliste. C'était le bon moment pour vous, pour l'écrire.
Je ne sais pas s'il y a un bon moment. Il y a surtout le moment où on se dit, c'est maintenant ou je ne sais pas quand. Et ce je ne sais pas quand, je me l'autorisais pas. Je me suis dit, il faut que ce soit maintenant parce qu'après, je ne sais pas ce qui peut se passer. J'ai 53 ans. Ce livre, en fait, je l'ai écrit, mais des milliers de fois, quoi. Je l'ai écrit et peaufiné. J'ai eu le temps de l'écrire et de le peaufiner pendant des années et des années. C'était sûrement le moment parce que on peut prévoir plein de choses. Et puis un moment où il y a une concordance, une sorte de synchronicité dans l'air. Et c'est maintenant que ça se passe, comme c'est maintenant qu'il se passe plein de choses.
Quand vous dites c'est maintenant, vous faites référence au contexte autour ou à l'endroit où vous êtes arrivée dans votre vie de femme. C'est de maintenant. Est-ce que ces deux maintenant coïncident?
Alors oui, complètement, oui. Il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais j'ai travaillé 30 ans dans la presse. 25 ans comme journaliste, mais je viens de la typographie, de la photocomposition. Aussi peut-être parce que je ne suis plus journaliste et que je m'autorise à une parole de citoyenne complètement libre. J'ai retrouvé une liberté totale, enfin totale, une grande liberté. Peut-être que ce livre, je ne pouvais peut-être pas l'écrire avant. Donc cette liberté que j'ai vécue, que j'ai gagnée au fil du temps de mes combats, que j'ai subie aussi, parce qu'une liberté... Ça se paye, puis alors super cher, waouh, wow. Et c'est jamais fini. Bon, après, c'est juste le problème des autres. Moi, c'est pas le mien. Ah bah oui, à chacun son problème.
Alors, à l'écriture, vous foncez dans le tas, hein, avec de la bienveillance, avec de l'humour, mais dans le tas quand même. Cette franchise-là, cette âpreté-là, parfois, dans le ton, c'est ça qui pourrait faire mauvais genre chez vous?
Il faut le demander aux gens. Moi... Je sais que ma franchise a toujours dérangé, mais même quand j'étais gamine, c'est-à-dire je posais des questions, pour moi, de toute façon, moi j'estime que j'ai le droit de poser des questions. Et puis j'ai fait un métier formidable où c'est un peu le métier de poser des questions. Mmh. Et quand on pose des questions, on veut des réponses. Mmh. Et en général, enfin, je trouve que beaucoup de gens ne savent pas quoi répondre ou sont gênés par des sujets. Je pense que j'ai gêné beaucoup de gens dès petites, mais sans le savoir. En fait, c'est ça le truc, sans le savoir.
Et à y regarder de plus près, Claudine Cordani, tenez, je vous tends ce miroir, c'est notre petit rituel ici, hein, quand on commence à peine à faire connaissance. Mm-hmm. Regardez-vous et dites-nous que voyez-vous dans le miroir ou qui voyez-vous?
Alors, bah, déjà je me vois à 53 ans avec les cheveux gris et franchement, je pensais pas dépasser 35 ans moi, je ne pensais pas. Je ne sais pas pourquoi, ayant failli mourir, je ne pensais pas vivre vieille, mais c'est vrai, c'est vrai.
53 ans, c'est pas vieux non plus.
Non, enfin quand je dis vieille, j'espère bien vivre plus longtemps que ça, mais je ne pensais pas qu'un jour je me verrais avec les cheveux blancs. En fait voilà, c'est ça, je ne pensais pas. Je ne pensais pas, alors je vois une femme avec l'œil toujours pétillant, qui a des rides, mais moi je trouve ça beau les rides. Parce qu'en fait j'ai vieilli, je ne peux pas dire le contraire. J'ai ce côté cash où, bah oui, j'ai des rides, bah oui, alors.
Vous vous aimez bien?
Ah oui, ouais. Ah oui. j'ai pris du temps, j'ai mis du temps, ouais. J'ai eu du mal, mais oui, parce que Le fait d'avoir... Alors, j'ai déjà fait un bilan de compétences dans ma vie, un super bilan de compétences dans un super cabinet. Mais alors, ce livre, ça a été le bilan.
Oui.
Parce que de l'avoir réécrit, d'être allé chercher mes souvenirs d'enfance, mes racines. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Mes parents, analphabètes. Voilà.
Et vous écrivez. Ça, c'est une belle revanche.
Et je suis devenue journaliste. Ouais. Alors, en fait, c'est pas en termes de revanche. C'est pas...
Moi,
je
belle victoire. On va dire.
Voilà, c'est une victoire
de
fierté.
Ce mot-là. Ouais.
Parce que là, moi, je suis pas quelqu'un qui, je suis pas dans la revanche. J'essaie de construire à partir de, j'ai un côté phénix qui renaît de ses cendres. Ouais. Et des fois, je me dis, ouah, là, je suis cramée. Mais en fait, non. Parce que je remonte toujours et encore plus fort. Je ne suis jamais là où on m'attend. Tant mieux, faut pas m'attendre. Voilà, si j'ai un message à faire passer, les gens ne m'attendaient pas.
Alors, elle devrait vous plaire avec cette façon qu'elles ont de sauter dans les flaques, de ne se laisser jamais coincer dans aucune case, définitivement 2020, mais complètement yéyé. Elles ont l'euphorie mélancolique, elles s'appellent Junior, oui, mais avec un E, et ça, c'est parfaitement notre genre. Ah bah d'accord, c'était Junior sur France Inter. Fermez les yeux, laissez-vous porter, laissez-vous téléporter. On part d'Aubervilliers ce soir, une cité, un milieu ouvrier en 80. On finit à Opéra, une manif monstre le 23 novembre dernier. Entre les deux, il y a un viol, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Et puis, il y a cette femme qui décide de se relever et qui y arrive à la force du poignet. Elle est unique en son genre, elle s'appelle Claudine Cordani. Elle est notre invitée.
Pas son genre.
Justice complice, État coupable, fausse, solidaire.
C'est quoi, Claudine Cordani, quand vous entendez ce chant, l'hymne du MLF, ou ces slogans, par exemple, qu'on vient d'entendre?
Moi, je ressens de l'espoir. Moi, ce qui me frappe, cette manif a été magnifique. Ce qui me frappe, c'est...
On parle bien de celle du 23 novembre dernier, hein, organisée par le collectif Nous Toutes contre les violences faites aux femmes.
Exactement. Et même les autres qui ont été organisées par le collectif depuis 2 ans. Il y a une belle énergie. C'est-à-dire que c'est l'énergie du désespoir. C'est non-violent. C'est... On chante. C'est créatif. C'est tous les moyens sont mis en œuvre pour dire des choses, et il y a beaucoup de tristesse, on sent quelque chose, c'est un moment sacré. Je sais pas comment expliquer ça.
Du désespoir ou de l'espoir, c'est les deux à la fois.
Alors en fait, il y a quelque chose qui naît du désespoir parce qu'on l'a vécu ou pas, ou parce qu'on veut pas ce monde-là, d'un monde comme ça. Mais de ce désespoir, de cette colère, de cette rage, en fait, c'est pas que du désespoir, c'est colère, rage. Il y a de l'espoir qui naît, de l'espoir. Et ça, c'est l'énergie de la résilience. Cette énergie, on la sent. Moi, je l'ai sentie. J'ai échangé des regards avec des gens connus, pas connus, on s'en tape, on s'en fiche, bref. Le plus important, c'est on était là pour quelque chose d'important. Et c'était chouette, quoi.
Et puis les chiffres, c'était du jamais vu, hein. C'était 50 000 selon les hypothèses les plus basses, les estimations les plus basses dans toute la France, et jusqu'à 150 000 d'après les organisatrices. Quelques semaines plus tôt, mi-octobre, Claudine Cordani, vous vous retrouviez embarquée dans le panier à salade, direction le commissariat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez là-bas?
D'autant plus que je sors là aujourd'hui du commissariat, j'ai été convoquée, ce qui normalement n'aurait pas dû arriver. Parce que... dans le cadre d'une... j'étais présente à un moment, il y avait une manif.
C'était une manif, on le précise, devant l'Élysée, contre les féminicides.
Ouais. On m'a reproché d'avoir manifesté avec d'autres personnes. Nous étions 16, dont un homme. Je trouve important de le signaler quand même, bien sûr. Alors voilà, on s'est retrouvés, place Beauvau. En fait, le but, c'était de faire du bruit. Parce que apparemment, en fait, on ne sait plus trop quoi faire. En fait, quand je dis « on », c'est d'abord le collectif Nous Toutes qui a organisé tout ça. Moi, je ne relève d'aucun collectif. Mais je trouve qu'elles font un boulot formidable, vraiment un travail formidable. Et moi, quand je peux, j'essaye de participer à ce qui se passe. Donc, je me suis dit, et je sais que j'ai une légitimité, mon histoire, mon passé de journaliste, mon histoire, tout ça fait que, voilà. Moi, je suis montée au créneau, j'ai pris cette décision-là, donc j'y vais.
Votre engagement féministe, c'est votre colonne vertébrale, c'est pas votre seul combat, bien sûr, mais disons que c'est peut-être le premier. Ah, et il vous vient de loin, il remonte, entre autres, à cette soirée du 2 février 84.
Eh bien non, avant.
Bien avant. Mais on va remonter plus loin. Faites-moi confiance. Moi, j'aime bien tirer le fil jusqu'au bout. Donc, on parlera de vos parents, on parlera de votre enfance, on parlera de votre adolescence, mais... Il faut sans doute en venir à cette soirée du 2 février 84. Vous êtes devant le métro Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Mmh. Vous avez 17 ans, vous devez rejoindre des amis.
Oui, dont mon copain de l'époque, mon amoureux, quoi.
Est-ce que vous nous racontez la suite ou est-ce que vous préférez que je résume? C'est comme vous voulez.
Franchement, je vous laisse bosser. Là, je suis un peu fatiguée. Ouais, donc j'y vais. Je sors du commissariat, je suis un peu fatiguée.
Okay, allez-y. Vous m'interrompez si je me gourre, vous me mettez même une petite clacounette
sur
la nuque si je me trompe.
Non, Julia.
Alors, il y a deux hommes qui commencent par vous draguer. Et comme vous n'embrayez pas, ils vous traitent de bêcheuse. Jusque-là, c'est gentil. Sauf que très vite, ils vous menacent. Ils vous disent qu'ils sont armés, qu'ils vont vous mettre une balle dans la tête et vous montrent quelque chose dans la poche. Donc, vous croyez qu'il y a un pistolet. Si vous ne les suivez pas, ils menacent de vous tuer. Ils vous entraînent derrière une camionnette et le viol commence là.
Oui.
Il vous humilie, il vous torture à coups de brûlures, de cigarettes et j'en passe.
Il pisse dessus.
Il vous force à vous déshabiller. Donc il déboutonne votre jupe.
Ouais, j'avais des collants.
Ah ouais, à remonter l'avenue, devant tout le monde.
Alors, il me viole donc sur le canal, à côté, au bord de l'eau. Et je suis d'ailleurs aujourd'hui encore hyper étonnée qu'avec toutes les fenêtres allumées ce soir-là, personne n'ait rien vu. Bref. Et puis ensuite. Je me relève et ils me disent « on t'emmène chez un pote ». Voilà. Donc,
vous remontez l'avenue, il y a pas mal de témoins. Alors, pour le coup, vous passez devant des gens.
Ah, mais même au moment, c'est-à-dire dès l'instant où je sors du métro, je revois la scène. J'ai conservé très peu de flashs, mais ils sont très précis. Je fais quelques pas. Un des mecs, je les appelle numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans mon bouquin, c'est exprès. J'ai pas eu de nom ce soir, bah eux, ils en ont pas dans mon livre. Ils méritent pas d'avoir un nom et un prénom dans mon livre. L'encre, ça sert pas à ça. Bref. Et il y en a un qui me demande une clope, donc quelqu'un veut une clope, j'en donne une. Et puis, l'autre arrive derrière en me disant « Tu donnes tes bagues, ta montre, tu fermes ta gueule, tu bouges pas, sinon tu t'en prends une, quoi. » Peut-être qu'il a utilisé ses doigts pour faire croire qu'il y avait un pistolet. En tout cas, les pistolets, je l'ai vu plus tard. Mais moi, enfin, je suis pas non plus très conne, quoi. Je vais pas dire « Ah bon, c'est quoi? C'est quelle marque ?» Moi, je comprends juste là que je peux mourir très vite, en fait. Je comprends vite en général, puis alors là j'ai compris que waouh.
Il vous amène ensuite dans un appartement,
exactement.
L'appartement d'un troisième larron.
Alors oui, en fait, il m'emmène dans la résidence dans laquelle ils vivent dans le 19e à ce moment-là.
Ouais.
Pas chez eux parce que ils vivaient chez leur mère. Mmh. L'un des deux vivait chez sa copine, qu'il a largué en plein tribunal, en plein cours d'assises. J'ai adoré. Elle a dit « Je ne veux plus voir monsieur numéro 1 ».
Ah bon,
ah, j'ai trouvé ça
bizarre.
Excellent. Elle a été super. Ouais, mais ouais. Elle a été super. Ouais. Moi, je l'ai trouvé super. Fallait avoir les couilles de le faire. Parce que des sacrés
voyous,
quoi.
Ou les ovaires, hein. Les ovaires, ça marche aussi.
Ouais, c'est vrai. Mais moi, pourquoi j'ai les couilles, Julia, je vais vous dire. Parce que on dit souvent, ouais, un mec, ça a des couilles. Mais je trouve qu'il y en a plein qui ont une bite, mais pas de couilles. Alors, je fais exprès, c'est vrai, des ovaires. Mais ça se voit pas trop. C'est pour marquer, en fait, des fois, je fais exprès d'utiliser des mots un peu plus forts pour marquer les esprits. Voilà, vous savez presque tout, Julia.
Pardon de vous faire reprendre cette route jusqu'à cet appartement, oui. Mais donc dans cet appartement, ils sont trois. Là,
oui.
Ça continue.
Oui.
Et à ce moment-là, ils menacent de vous tuer parce qu'ils ont évidemment peur que vous parliez.
Bien, avant de partir, en fait, ils demandent à numéro 3 de me garder dans l'appart jusqu'au petit matin quand même.
Mm-hmm.
Donc numéro 1, c'est le meneur. Il y a souvent, voilà, quand il y a plusieurs personnes, bah, en général, il y a un meneur. Il m'avait dit qu'il voulait me prostituer, il voulait me mettre sur le trottoir, il voulait que je bosse pour lui. Le juge d'instruction donc, qui a instruit l'affaire Jean-Pierre Djetti, qui est une immensité de la justice française pour moi, j'ai pas vraiment d'autres mots. Il connaissait les dossiers, il y avait eu d'autres affaires, je dis pas d'autres affaires de viol, je ne peux pas être aussi précise que ça. Mais ils étaient connus des affaires de police, ils s'en tiraient, ils s'en étaient tirés, ils avaient eu des non-lieux.
Comment vous sortez-vous de ce traquenard en fait?
Alors, j'ai eu une chance.
J'allais dire, on imagine, mais en fait, non, on n'imagine pas. Une seconde, dans quel état vous êtes à ce moment-là, ce que vous avez subi. Ça a duré 3 heures quand même, hein, de torture, d'humiliation, de viol. On est dans l'horreur complète.
J'ai mal au dos. Enfin, aujourd'hui, je commence à avoir des problèmes de dos.
Vous vous dites, vous, à ce moment-là, vous avez 17 ans, vous êtes seule dans cet appartement avec ces 3 ordures. Les pensées à ce moment-là, c'est quoi? Déjà, est-ce qu'on en a encore? Est-ce que la seule pensée, c'est de sauver sa peau?
Oui, j'en avais.
Est-ce que c'est quoi?
Alors, j'en avais, et je me souviens précisément de certaines pensées qui me traversaient l'esprit. Numéro 1 me dit, on va se revoir, c'était bien, on va se revoir. Et là, je dis non. Non. Enfin, c'est sorti tout seul, quoi. Et là, il m'a regardé, et là, il a soulevé le matelas. Il y avait un flingue. Et il a dit, elle aimait qu'on la bute parce qu'elle va nous balancer. Et là, je regarde numéro 1 et je lui dis, non, je vous balance pas, de toute façon, je connais même pas vos noms. J'ai eu la présence d'esprit de lui dire ça.
Ouais.
C'est vrai, je connaissais pas leurs noms.
Ouais.
Et justement, c'est à ça que j'étais en train de penser. Je me suis dit, mince, les mecs vont partir, j'ai même pas leurs noms. Oh, mais j'ai eu une chance inouïe, Julia, vraiment. J'ai eu du bol parce que j'ai dû les persuader. Ils sont partis, je me suis rhabillée. Et là, j'entends frapper à la porte. Je me dis, oh non, c'est pas vrai, ils reviennent. Oh, l'angoisse. J'étais en train de me rhabiller et j'entends d'autres voix. Et je me dis, non. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. La prostitution va pas commencer maintenant. Je me suis dit, je me demandais, quoi. Et j'ai eu super peur. Et en fait, deux hommes qui sont arrivés étaient des voyous. Ils vivaient dans la même cité. En fait, j'ai compris que l'appartement dans lequel j'étais emmenée est un appartement où il y avait du trafic. C'est un lieu où les voyous se rencontraient pour différentes affaires. Donc, les deux voyous ne venaient pas pour moi, ne savaient même pas que j'étais là. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que ces deux voyous étaient d'un autre clan que ceux qui m'avaient violée. Et par vengeance, ils m'ont donné leur nom. Mais j'ai eu un bol de dingue.
Oui, dans cette horreur, oui. On peut considérer qu'effectivement, ça, oui. c'est le petit coup de pouce. Du coup, qu'est-ce qui se passe immédiatement après? Qu'est-ce qui fait que la procédure s'enclenche?
Ah bah, pour moi, c'était clair.
Ouais.
Ah bah, pour moi, c'est... Moi, je l'avais décidé. Ah bah oui. Ouais. Moi, je l'ai décidé, je le savais. Et si je restais en vie, moi, j'allais chez les flics. Ouais. Ah, ça, c'était clair. Ah, ça, c'était... De toute façon, moi, je l'avais prévu. Je savais pas que j'allais avoir... Quand je disais tout à l'heure de la chance, les circonstances qui font que je me suis retrouvée dans le cas d'un flagrant délit. Et ça n'est pas 24 heures la durée, c'est 48 heures un cas de flagrant délit.
C'est-à-dire qu'on considère qu'on est dans le flagrant délit tant que on n'a pas passé les 48 heures. Donc là, la procédure de flagrant délit peut s'enclencher, ce qui veut dire que tout va plus vite.
Tout va plus vite parce qu'en plus, j'étais mineure. Flagrant délit, bien sûr, tout va plus vite. Il y a plein de questions qu'on ne se pose pas. On m'a emmenée à l'hôpital, j'ai eu plein d'examens. Quand on retrouve trois spermes différents, on ne peut pas dire « Mais vous êtes sûre que vous avez été violée ?» On ne peut juste pas poser cette question. « Mais vous êtes sûre qu'ils étaient trois ?» Voilà. C'est-à-dire que ça freine l'indécence. Les preuves, moi j'encourage les personnes, vraiment je profite du micro pour dire,
allez-y.
J'encourage les personnes qui ont la force, les ressources, les aides, le soutien à ce moment-là, d'être accompagnées, de porter plainte, parce que c'est ce qui fait que, eh ben en fait, ces hommes, on peut les arrêter très vite, ils feront pas de mal aux autres. Le but c'est ça, et c'est que justice soit faite, c'est ça pour moi. Mais c'est personnel, encore une fois.
Alors, l'instruction s'ouvre, elle va durer à peu près 2 ans, conduite par cet homme que vous citiez, Jean-Pierre Getty. Et on va l'entendre. Il était invité sur France 3 le 22 septembre 1993 avec Gisèle Halimi. Et déjà, il protestait contre le sort réservé aux victimes de viol pendant la procédure judiciaire. Écoutez.
Si les auteurs arrêtés reconnaissent les faits, je ne vois pas la nécessité de soumettre les victimes à des examens dits de crédibilité ou autres mesures d'expertise qui seraient inutiles.
Donc, en réalité, clairement parlant, vous êtes contre ces mesures d'établissement de crédibilité dès l'instant que d'autres preuves existent, c'est ça?
Non seulement je suis contre, mais ça n'est pas prévu par le code.
Maître Halimi?
Je crois qu'on a la chance d'avoir un juge d'instruction modèle, parce que l'expérience des femmes violées et des avocats de ces femmes violées est un peu contraire à ce qui vient d'être dit. Il est vrai que dans le code de procédure, il n'est pas dit nommément qu'on fait une expertise de crédibilité, mais il faut quand même savoir que l'article 81 donne tout pouvoir au juge pour ordonner toutes les mesures qu'il entend ordonner, et ce que l'on ne dit pas, et je veux y insister, c'est que sous couvert d'enquête de crédibilité ou d'enquête sur la personnalité de la victime, on arrive à une véritable enquête de moralité de la victime, comme si elle était coupable.
Vous avez eu ce sentiment-là, Claudine Cordani, pendant l'instruction, pendant le procès, le sentiment qu'on testait votre crédibilité et votre moralité?
Alors, oui et non. Oui, dans le sens où effectivement, il y a eu des enquêtes de moralité qui ont été faites sur moi. Je sais par exemple que c'est remonté jusqu'à la maternelle où je suis allée.
Mais non. Voilà, mais parce qu'on essayait de voir à quel point vous étiez
maternelle ou la primaire.
Crédible, ou l'idée c'était quoi? C'était si vous étiez une fille de mœurs légères, on va dire ça comme ça, c'était un petit peu moins un viol? C'était quoi l'idée?
Alors
c'était
pour
quoi,
moi, mon analyse c'est que on dit quelque chose qui n'est tellement pas entendable, on dit quelque chose de tellement grave que personne ne veut y croire. Et que en général ce qui se passe c'est que c'est l'effet inverse. On va, en fait, pour moi c'est une sorte de campagne de décrédibilisation. Alors que ça coûte un fric dingue. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec un viol. Peu importe qu'on préfère la confiture aux fraises ou qu'on ait mangé des crêpes au chocolat quand on était gamin. Enfin, je veux dire, mais peu importe. C'est-à-dire, on peut pas expliquer le viol de quelqu'un par un de ses actes à lui. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens.
Bah, c'est-à-dire que soit on considère que la victime de viol est une victime et auquel cas on n'enquête pas sur ce qu'elle a fait. Enfin, je veux dire, il y a une inversion du questionnement qui pose quand même question, quoi.
Et ben voilà, on en vient à une idée philosophique de la société. Pourquoi on n'écoute pas la souffrance des gens? Voilà, pourquoi la parole de certaines personnes, en l'occurrence quand même vachement plus les femmes et les enfants, ne les oublions pas. Pourquoi les remises en question? Ça pose problème à qui, en fait, exactement?
Vous en parlez au présent parce que les chiffres sont ce qu'ils sont. Hein. Le viol est condamné dans 1% des cas seulement. Dans 73% des cas, les plaintes sont classées sans suite. Pour faire le parallèle avec le moment où vous, ça vous est arrivé, on le rappelle, en octobre 85. À ce moment-là, ça fait 5 ans seulement que le viol de délit est passé au rang de crime. Il est rentré dans le code pénal tel qu'on le connaît aujourd'hui. À ce moment-là, la loi bouge. Mais où en sont les mentalités à l'époque, Claudine Cordani? Comment est-ce qu'on parle des victimes? Comment est-ce qu'on parle du viol? Comment est-ce qu'on parle des violeurs?
Alors là, j'ai découvert un monde. Effectivement, la loi était passée qui reconnaissait, qui reconnaît donc, le viol comme un crime, donc passible de cour d'assises, c'est-à-dire c'est pas la correctionnelle, on passe à des plus grandes peines, c'est autre chose. Les enquêtes sont pas les mêmes, l'instruction n'est pas la même, il y a plein de choses qui changent.
Mais comment on parle des victimes? Comment on parle du viol? Comment on parle des violeurs?
Alors ça, j'ai été atterrée parce que j'ai eu des questions. Mon avocat venait me voir régulièrement me disant « Claudine, on m'a posé telle et telle question sur vous ». Après, on se tutoyait parce qu'on avait peu de différence d'âge. Mais une question, moi, qui m'a beaucoup frappée, parce que la loi, effectivement, était passée, mais les mentalités étaient loin d'avoir rattrapé la loi. Et même aujourd'hui, on n'y est pas encore. C'est mon analyse perso. Il y a des personnes, des magistrats qui venaient voir mon avocat en lui disant « Mais comment elle est ? Comment elle est ? Comme si j'allais avoir trois jambes, deux bras. Comment elle est ? Bah... »
Elle est debout.
En fait, je pense qu'ils étaient... En fait, je suis la première à avoir refusé le huis clos.
Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que les juges vous proposent un procès huis clos et vous dites non. Pourquoi ?
En fait, ils ne me proposent pas... En fait, c'est pas qu'il me propose. Il m'a très bien préparé en me disant voilà, ça va se passer comme ça, ça va se passer dans une grande salle, une salle en bois. Il m'a même emmené. Il me semble qu'il m'a emmené la visiter avant. Il a été super. Il m'a bien préparé en m'expliquant les étapes et puis à un moment il me dit bon bah ce sera à huis clos. Moi je connaissais pas le terme en fait. Mm-hmm. Et je lui demande ce que ça veut dire. Et là il me dit bah les clos c'est les portes et on va fermer les portes parce que vous êtes majeur aujourd'hui. J'avais 19 ans au moment du procès, en 85, octobre 85, je venais d'avoir 19 ans. Et donc je lui dis, mais moi je veux pas qu'on ferme les portes, c'est possible qu'on les ferme pas, moi je veux pas. Et alors il me regarde, je l'ai scotché, je savais pas en fait que j'étais la première, j'avais pas du tout conscience de ça. Et puis, j'ai réagi...
Pourquoi avec... vous vouliez que le public soit là?
Alors, pas que le public soit là. En fait, mon truc, c'était pas que le public soit là. C'est pour retourner la honte. Je lui ai dit, mais moi, je veux pas que les portes soient fermées. Il m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, mais parce que c'est pas à moi d'avoir honte. Et je veux que tout le monde le sache. En fait, c'était ça. Ouvrir, c'était ouvrir au public. C'était ouvrir plus largement à la presse. C'était ouvrir plus largement à tout le monde. C'était, pour moi, ouvrir une porte et dire quelque chose de fort. Ne sachant pas que j'étais la première, pour moi, c'était... Je voulais le dire au monde entier, en fait. C'est jamais de la faute des femmes. C'est des personnes qui subissent ça. C'est toujours de la faute des personnes qui se permettent de faire ça. Pour moi, le message était très clair, très vite, en fait.
Et vous aviez 19 ans à peine. Vous me scotchez, Claudine Cordani. Les trois accusés finissent par être condamnés. Le meneur et son acolyte prennent 10 et 12 ans. Celui qui les a hébergés, 5 ans. Pour l'époque, ce sont des peines très lourdes, mais ce serait le cas encore aujourd'hui. On va poursuivre notre route avec vous, Claudine Cordani. On va repartir dans votre chambre d'ado, dans le nord de Paris. Vous nous raconterez vos parents,
dans l'Est,
le milieu ouvrier, vos amis, votre fratrie. Vous nous direz qui vous étiez avant ce 2 février 84. Qui était cette jeune femme et à quoi elle rêvait et d'où elle venait et qui elle aimait? Ce qu'on sait déjà, c'est qu'elle écoutait Elvis Costello. Today I write a book.
Costello, c'est vous qui nous avez proposé d'écouter ce morceau, Claudine Cordani. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Alors, plein de choses, énormément de choses. Déjà, le titre, voilà. On peut tous décider finalement de, ouais, tous les jours d'écrire un livre, dans le sens où on peut être acteur de notre vie. Moi, j'ai un moment décidé très fort d'être actrice de ma vie à partir de mes 17 ans. J'ai vécu un moment où je n'ai rien décidé pendant plusieurs heures, pendant ce viol. Et après, je me suis dit, maintenant, c'est moi qui décide. Donc oui, on peut être acteur, on peut décider toute notre vie d'écrire un livre. C'est une façon peut-être un peu poétique, musicale, rock, tout ce qu'on veut, pop-rock, de dire, on y va, quoi. Moi, c'est en y allant, en faisant les choses, que j'ai fait des choses que j'estime formidables dans ma vie, donc je suis fière, ouais.
Cette jeune femme de 17 ans qui va à Place Stalingrad, qui veut retrouver sa bande de copains, son petit copain, juste avant le viol, comment vous la décririez ? C'était qui ?
Alors en fait, c'était la même, sauf qu'elle n'avait pas été violée. J'ai toujours été la même personne, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de scission, de rupture à ce point-là, je pense.
C'est... Mais vous rêviez à quoi à ce moment-là ?
Alors moi j'avais
décidé
plein de trucs.
Vous imaginiez quoi pour la suite ? Vous deviez devenir
quoi ? Moi j'avais décidé plein de trucs déjà. Moi j'étais en primaire. Moi en primaire, j'ai décidé qu'un jour j'écrirais un livre.
Ah oui.
Ah mais moi je savais pas quoi, mais j'ai découvert un tel bonheur dans les mots. Étonnamment, dans une famille où il n'y avait pas de livres, où il n'y avait pas de journaux, voilà. J'ai découvert tellement de bonheur au travers des mots que je me suis dit, mais moi aussi un jour j'ai envie d'écrire quelque chose d'aussi passionnant qui puisse accrocher des lecteurs comme ça. Enfin, je pensais à lecteur, mais pas dans le sens presse, lectorat. Voilà, je sais. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on décide, on ne sait pas pourquoi, mais on les décide.
On va remonter un petit peu plus loin encore avec vous, Claudine Cordani, unique en son genre, c'est jusqu'à 21h sur France Inter.
France Inter, pas son genre.
Vous naissez en octobre 66 à Aubervilliers, en banlieue nord, et je le reprécise, Claudine Cordani, c'est
oui,
bien
Julia,
le nord, enfin c'est le nord-est,
mais
bon, ça va.
Pas.
Et on sent, à vous lire, à lire votre livre La justice dans la peau, un attachement à votre enfance, à ce milieu-là, le milieu ouvrier de vos parents. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'ambiance de vos toutes premières années ?
Ah oui, que ce soit à Aubervilliers pendant les 6 premières années de ma vie ou ensuite à Paris dans l'Est, dans un des derniers passages ouvriers. Mais en fait, il y avait vachement de joie toujours autour de nous. Moi, c'est ce dont je me souviens. C'est-à-dire, c'était gai. Chemin de l'échange, et d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, Didier Deninck s'en parle parce que c'était un peu le Little Italy de la Seine-Saint-Denis. Et moi, j'ai pas de souvenirs précis, mais en tout cas... je me souviens de la bonne humeur, des chansons, voilà. Moi, j'écoutais Bella Ciao, j'écoutais tout un tas de chansons qui se dansaient dans le sud de l'Italie.
Parce que l'Italie, d'où viennent vos parents, c'est celle-là. C'est celle du sud et c'est celle des communistes italiens.
Des résistants du Nord.
Est-ce que justement, vous disiez tout à l'heure, attention, mes engagements remontent à bien plus loin que ce 2 février 84. Est-ce qu'ils prennent racine là, dans une famille où on est globalement à gauche et globalement dans la révolte ou dans la contestation ?
Alors, bizarrement, ma famille, je peux pas dire qu'elle était à gauche. Ils s'occupaient pas de politique, mes parents. Je n'ai pas eu d'éducation à la politique. Mon éducation politique, je l'ai faite toute seule.
Oui.
Ah oui, vraiment, vraiment. Moi, à 13 ans, je suis allée demander ma carte au PC, dans le 19e. à 13-14 ans, et j'ai fait une vente de sangria, c'était les jeunesses communistes. Bon, je suis pas restée longtemps, parce que quand j'ai vu qu'il y avait un tel succès, ils ont décidé de multiplier le prix du verre de sangria par deux, je me suis dit, communiste, non, et je suis rentrée chez moi. C'est vrai, hein, j'y suis jamais retournée.
Mais alors, qui étaient vos parents, à part le fait qu'ils ne parlaient pas de politique? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne alors, de votre père ou de votre mère?
Ils ne parlaient pas de politique, mais ils étaient très ouverts sur le monde, et ils avaient cette façon, pour moi, très à gauche, d'être ouverts sur les autres, de ne pas juger les gens, de ne pas être raciste, d'être généreux. Il y a plein de choses, pour moi. Ils étaient politiques dans leur façon de vivre, dans leur façon humaine et solidaire de vivre. Voilà. Et par contre, mon papa, il avait 12 ans, a accompagné un de ses frères qui en avait 14 ou 15 quand il était jeune. C'était entre les deux guerres. Ouais. Ma grand-mère lui a demandé d'apporter à manger à des maquisards qui étaient justement dans les montagnes. Voilà,
oui, belle. Donc, il prend quand même racine par là-bas, votre engagement politique.
Bien sûr. Mais mon père en avait pas trop conscience.
Ouais. C'est-à-dire qu'on n'en faisait pas un discours, mais c'était un engagement dans les faits, dans le quotidien.
Donc, dans les gènes.
Alors, ce qui est fou, c'est qu'on sent quand vous en parlez, tout l'amour que vous avez pour vos parents.
Ah, oui.
Vous l'écrivez aussi dans votre livre. Vous êtes cette jeune femme qui n'hésite pas une seconde à aller au commissariat, qui demande à ce que son procès ne se tienne pas à huis clos. Pour autant, pas un mot de ce qu'il vous est arrivé à vos parents.
Non.
Pourquoi?
Pour deux raisons. La première, parce que c'est une peine immense. Enfin, je peux pas imaginer parce que je l'ai pas fait moi à l'époque, mais je me dis ça doit être une peine immense de dire à nos parents voilà ce que j'ai vécu, ça doit être horrible. Je me dis, enfin, j'ai pas voulu leur faire cette peine là.
Ils n'en ont jamais eu vent, ne l'ont jamais su.
Mon père ne l'a jamais su. Mon père est mort, ne l'a jamais su. Ma mère, je lui ai dit combien d'années après. 10 ans après, peut-être.
Et vous n'ont jamais posé de questions? Vous arrivez chez vous ce soir-là, vous avez le visage tuméfié?
Ouais, bien sûr qu'ils m'ont posé des questions.
Ouais.
Alors, je suis arrivée en pleine nuit, deux policiers m'ont ramenée en pleine nuit. Mes frères étaient là, ma sœur aussi dormait. Donc, je l'ai dit à mes frères, ils leur ont dit, personne n'en parle aux parents.
Ah ouais.
Ah, moi, je l'ai dit tout de suite. Pour moi, mais moi, j'avais pris ma décision. Enfin, voilà, je venais de déposer plainte. J'en parlais pas à mes parents et j'allais seule à mon procès. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein.
Avec le recul, vous ne regrettez pas de pas y être allée entourée à ce procès?
Absolument pas.
Non.
Bah non, parce que alors c'est pas un principe, mais je regrette rarement les choses parce que je me dis que au moment où je fais ou je ne fais pas les choses, il y a des raisons pour les faire ou ne pas les faire. J'ai décidé ça à ce moment-là parce que je suis persuadée d'ailleurs aujourd'hui que c'était la meilleure solution. Pour moi, c'était la meilleure solution. Pour mes parents aussi. Mes parents n'auraient pas pu gérer, je pense. On était 4 enfants. Je pense qu'ils n'avaient pas les ressources dont j'aurais eu besoin, moi, à ce moment-là. Je savais que j'allais aller les chercher ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait.
Ces ressources-là, vous les avez trouvées notamment dans la lecture. Je rappelle que vous êtes en terminale à ce moment-là. Vous décrochez de vos études.
En première.
En première, et puis au moment du viol, et puis le terminal, je crois que c'est l'année du procès. Il n'y a pas
y a
eu de terminal.
Il n'y a jamais
eu de terminal.
J'ai jamais,
voilà.
Et j'ai pas eu mon, et j'ai pas mon bac. Voilà, je l'avoue, je n'ai pas mon bac.
Quel rôle joue la lecture à ce moment-là?
Un échappatoire. Un échappatoire de l'ami, de la confidente, de... Je me sentais très seule, en fait. J'étais très seule, normal, d'ailleurs. On est toujours seule, mais j'avais décidé, alors, je suis pas en train de me plaindre, c'est pas mon genre. Voilà, un truc qui est pas mon genre, c'est de me plaindre. J'avais décidé de faire ça toute seule, de ne pas ajouter de difficultés, de dureté dans la vie à mes parents, qui avaient déjà une vie, enfin, de labeur, 4 enfants, voilà, dur quand même, des parents courageux, mais dur. Donc, je voulais pas ajouter quelque chose. Et l'écriture a été pour moi la façon de les préserver, qu'on me laisse tranquille. Parmi les deux raisons, là, il y a la peine immense que moi je supposais faire à mes parents. Je sais pas en fait ce que ça fait quand un enfant dit ça à ses parents. Mais je voulais pas en fait leur voilà. Je voulais pas que cette peine, parce qu'il y a peut-être un peu de culpabilité en disant cette peine, elle vient par mon biais, donc de moi.
Par ma faute.
Peut-être.
C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on finit par se dire que c'est un peu de notre faute.
Alors, en fait, moi, cette notion de faute, je l'ai jamais eue. Alors, je sais pas pourquoi. C'est jamais passé par moi, ça. Mm-hmm. Pour moi, les choses étaient très claires. Ces mecs n'avaient pas à faire ce qu'ils ont fait.
Et moi, néanmoins, il y a une forme de culpabilité au sens où vous dites « je ne vais pas faire de la peine à mes parents ». C'est pas vous
oui,
qui auriez
parce qu'ils avaient
à vos parents.
En fait, parce qu'ils avaient d'autres choses à gérer, que la vie était déjà difficile et que je ne voulais pas rajouter quelque chose.
Et pour en revenir à la lecture, alors, quel rôle joue la lecture? Quel rôle jouent les livres à ce moment-là? Est-ce qu'ils peuplent une solitude? Est-ce qu'ils vous donnent la possibilité de partir ailleurs, de rencontrer d'autres des histoires, des personnalités, des univers, des choses comme ça?
Complètement. Alors, ce qui est très étonnant, pour moi c'est encore un mystère. Mes parents sont analphabètes, il n'y a pas de livre chez moi, je me découvre une passion pour la rédaction à l'école. En primaire, ah ben d'ailleurs je le raconte dans mon livre à un moment, je demandais des rédactions, c'était des petits textes au début, mais je demandais plein d'exercices le week-end. Nos parents bossaient tout le temps, puis voilà, mon truc c'était pas de jouer à la poupée, ou c'était c'était d'écrire, je sais pas.
Alors à un moment donné, vous croisez la plume d'une écrivaine qui vous va droit au cœur, c'est Colette, votre héroïne, vous nous direz pourquoi, mais je vous propose qu'on l'écoute. C'était en 1950, c'est une archive INA, extrait des entretiens d'André Périnot.
Je crois qu'un écrivain qui n'est pas spécialement désigné par je ne sais quel châtiment du ciel à se restreindre de façon à ne pouvoir parler que de l'enfant et de l'enfant et de la maternité et de la paternité, je crois que j'avais... Peut-être n'étais-je pas, ne me sentais-je pas assez maternelle en somme pour pouvoir remplir non seulement ma vie, ça on le peut toujours, mais remplir ma carrière d'écrivain en discourant et en écrivant de la maternité, de la paternité et de cette merveille toujours difficile à aborder qu'est un enfant.
Que représente Colette pour vous, Claudine Cordani, peut-être comme femme mais aussi comme écrivain?
Alors Colette, je l'ai découverte grâce à la télé, parce qu'il y a une série qui est passée, c'était Marie-Hélène Breillat, je crois, qui incarnait Claudine.
Ah.
J'ai découvert Colette en découvrant, pas la télé mais pas loin, en découvrant les aventures de Claudine. Et alors cette sémillante actrice... J'ai eu un coup de cœur pour sa façon de jouer, pour le personnage qu'elle incarnait. Mmh. Et en fait, c'est comme si je tombais amoureuse d'un personnage en me disant mais waouh, c'est quel culot, mais quelle intelligence. Enfin voilà, elle m'a bluffé moi cette Claudine, alors que j'aimais pas mon prénom. J'aimais pas mon prénom. Je trouvais que ça faisait vieillot. C'est bête, mais c'est comme ça. Et je demande un jour à ma mère, mais pourquoi? Elle m'a dit, j'étais au marché, et voilà, je me suis dit, waouh, j'ai eu du bol, ça aurait pu être pire. Et puis, je découvre les Claudines, et je découvre Colette, et là, c'est le choc textuel de ma vie. C'est-à-dire, waouh, une femme qui écrit comme elle écrit, qui écrit ce qu'elle écrit, c'est scandaleusement...
C'est sa liberté, c'est son audace.
Ah, mais c'est la liberté, ouais. En fait, c'est la liberté. Moi, je suis un être de liberté. J'ai besoin de liberté.
On a encore quelques minutes à passer ensemble, Claudine Cordani. Avec nous, à la technique ce soir, Pierre-Yves Derolin, la réalisation, Marianne Crimbaud, Romy Engel s'assure la préparation et la coordination de cette émission. Dans les enceintes, là, c'est Baxter Derey, Slumlord.
Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. To say just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.
Slumlord, Baxter Dury, comme tous les vendredis, la programmation musicale de Passons Genre est signée Thierry Dupin. Vous en retrouverez toutes les références sur franceinter.fr à la page de Passons Genre, à l'endroit même où vous pouvez nous podcaster. Si, si.
Passons Genre. Julia Foyce.
Et maintenant, imaginons un monde où l'on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les genres seraient mouvants, on en ferait exactement ce qu'on veut. Ce monde-là, eh bien, c'est le nôtre, c'est le vôtre, donc aussi, Claudine Cordani. Dites-nous, si un objet, un seul, racontait votre féminin, ce serait quoi ?
Un stylo. Pour moi, c'est une arme de destruction massive, destinée aux femmes aussi. Il n'y a pas de raison, on sait
écrire. Et en même temps, ça peut avoir quelque chose de très viril, dans le sens où le stylo raconte aussi comment les femmes ont été exclues de l'écriture, même de la lecture pendant des siècles.
Exactement. Je serais vachement plus embêtée si je n'avais pas de stylo plutôt que si je n'avais pas de rouge à lèvres. Donc dans mon sac, il y en a en général 3-4. Même depuis les nouvelles technologies, c'est une habitude, c'est comme ça.
Votre rapport avec les attributs classiques du féminin, vous parlez de rouge à lèvres, mais on peut penser à d'autres accessoires aussi. Et quels sont-ils aujourd'hui ?
Alors, en fait, j'ai plein de maquillage dans mon sac, j'ai juste pas eu le temps. Mais dans mon sac, j'ai aussi un rouge à lèvres, j'ai plein de trucs. Moi, la coquetterie, j'aime bien. J'y passe moins de temps. Franchement, j'ai autre chose à faire. Je suis quelqu'un, ouais, de coquet. J'ai fait un choix, c'est-à-dire, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la vie, quand même. C'est-à-dire, la coquetterie, c'est plein de choses. Pour moi, enfin, je sais pas, moi, la coquetterie qui me touche, c'est plus la coquetterie intellectuelle.
Qu'est-ce qui vous rend belle ?
Qu'est-ce qui me rebelle ou qui me rend belle ?
Les deux.
Qu'est-ce qui me rend belle d'être moi-même ? Voilà. Je suis jamais aussi bien, droite dans mes bottes, que quand je suis moi-même. Quand je suis moi-même, c'est-à-dire, j'ai pas peur, j'ai pas besoin, je suis moi, quoi. Waouh, ça fait du bien. Et qu'est-ce qui me rebelle? En fait, l'injustice, c'est insupportable pour moi. Mais toutes les injustices, c'est-à-dire de ne pas parler correctement à quelqu'un, le manque de respect, le manque d'honnêteté, le manque de franchise. Grandir en faisant en sorte qu'on soit content du bonheur des autres. Voilà.
Vous avez aujourd'hui une fille qui a 18 ans. Qu'est-ce que vous lui transmettez ? Qu'est-ce que vous lui dites du monde qui l'entoure ? Qu'est-ce que vous lui dites du féminin ? Qu'est-ce que vous lui dites des femmes ? Qu'est-ce que vous lui dites des hommes autour ? Compte tenu de votre histoire, compte tenu de votre vécu personnel, compte tenu aussi de vos engagements féministes ?
Alors, moi, je lui ai toujours dit ce que j'avais vécu quand j'ai estimé qu'elle était en âge de comprendre aux abords de l'adolescence. Parce que j'ai repris mon bouquin. Mon bouquin, je l'ai en moi depuis longtemps. Et je l'ai repris il y a quelques années, il y a quoi, à peu près, je sais pas, à peu près 5 ans. Je sentais que le moment arrivait. Mm-hmm. Je sentais que le moment arrivait. Et là, avant d'en parler autour de moi, à ma famille, à d'autres personnes, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est à ma fille, en lui disant « Voilà, je vais écrire, voilà ce que j'ai vécu, puis je vais écrire un livre. » Et puis, de toute façon, moi, je suis féministe. Je l'ai élevé par rapport à des convictions, en lui laissant toujours le libre arbitre, mais en lui expliquant des choses. Tout était prétexte, finalement, à des... Pour moi, l'éducation, c'est ça, c'est tout est prétexte à découvrir le monde. C'est, bah, dans la vie, je caricature, hein, évidemment. Il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a des méchants... Enfin, tu crois qu'il y a des méchants, mais en fait, c'est des gentils. Puis il y a des gentils, tu penses qu'ils sont gentils, mais en fait, ils sont encore plus méchants que les autres. Donc, voilà, je l'ai toujours éveillé à voir le monde tel qu'il était. Ma fille peut me poser toutes les questions. Enfin, toutes les questions auxquelles je peux répondre, je ferai tout pour lui répondre. C'est assez transparent. Ouais, moi je suis une espionne anti-secret. Non, je rigole, mais je veux dire, les secrets pour moi c'est pas mon truc, les secrets. Pour moi ça sent pas bon, les secrets.
Votre stylo, Claudine, va rejoindre maintenant notre labo du genre, labo en perpétuelle ébullition grâce à vos contributions. Venez, rejoignez-nous, racontez-nous ce qui fait votre féminin, ce qui dit votre masculin. Vous pouvez m'écrire sur Twitter ou bien sur notre boîte mail passongenre@radiofrance.com. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. Merci infiniment, Claudine Cordani, de nous avoir raconté votre histoire et insufflé qui sait comme un goût du combat. On trouve votre livre La justice dans la peau en ligne aux éditions Macteline juste après le flash. Vous avez rendez-vous avec Laurent Goumard, côté club. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse.